L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Mourad, expert enseignant de stratégie, prospective et géopolitique de l'énergie. Avec lui, nous allons parler du contexte géoéconomique et géostratégique régional, continental et international dans lequel sera fêté cette année le 63e anniversaire de la création de l'OPEP. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La conférence de Bagdad en 1960 a abouti à la création de l'OPEP par cinq pays fondateurs, producteurs et exportateurs de pétrole. L'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Venezuela. Les cinq pays fondateurs s'étaient fixés alors l'objectif de maîtriser sur les plans technologiques et industriels le cycle de production du pétrole et d'orienter à la hausse son prix dans les marchés internationaux à des niveaux à même de leur permettre d'assurer leurs intérêts. À partir des années 1970, notamment après les deux chocs pétroliers, l'OPEP acquiert une stature internationale et son poids dans le marché mondial de l'énergie est devenu incontournable. Elle regroupe 13 pays membres auxquels il faut ajouter 10 autres membres de la nouvelle alliance élargie, l'OPEP+. À la suite du krach boursier de 1987, l'OPEP a procédé à des ajustements majeurs afin d'équilibrer la production de pétrole des différents pays membres. Un panier de référence visant à fixer les prix du cours du pétrole a également été institué. Malgré tout, la volatilité croissante des cours pétroliers a entraîné plusieurs crises économiques au sein des pays membres ou tout au moins des récessions récurrentes. Depuis sa création, l'OPEP s'est engagé dans une démarche systémique dont les enjeux regroupent un ensemble de problématiques liées à l'activité pétrolière, notamment industrielle, logistique, économique et politique. Elle se force d'unifier et de coordonner l'ensemble des politiques pétrolières des pays membres, de garantir l'équilibre des marchés pétroliers, notamment en élaborant des moyens permettant d'assurer une stabilisation des prix des cours au regard de leur importante volatilité, d'assurer une production de pétrole régulière, stable et efficiente à des prix compétitifs pour les différents pays consommateurs qui cherchent aussi à se libérer en partie de leur dépendance aux énergies fossiles. Alors, pour discuter de ces questions fondamentales, l'Afrique en marche reçoit Mourad Preur, ex-cadre dirigeant du principal groupe énergétique et industriel algérien Sonatrach, expert enseignant de stratégie prospective et géopolitique de l'énergie, membre de plusieurs clubs internationaux de prospective énergétique et dirige actuellement un cabinet de conseil en stratégie et études énergétiques émergie en Algérie. Alors, Mourad Preur, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour aux auditeurs, bonjour aux équipes qui animent la radio.
Merci. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire de la naissance et de l'évolution de l'OPEP jusqu'à l'avènement de l'OPEP+ ? Et cette organisation a-t-elle encore toutes ses raisons d'exister encore et de jouer un rôle dans la sécurité énergétique du monde ?
L'OPEP et l'OPEP+, nous en parlerons, est plus que jamais indispensable au fonctionnement du marché pétrolier qui restera dominant dans le système énergétique mondial jusqu'à la mi-siècle au minimum. Donc, l'histoire de l'OPEP est à situer dans la longue histoire des pays producteurs. La nationalisation des pétroles vénézuéliens en 1938, par le président Cárdenas, la naissance de la PEMEX, la compagnie pétrolière mexicaine, l'embargo qui avait été décrété contre le pétrole vénézuélien, le pétrole mexicain, qui était déclaré un pétrole rouge, hein, en 1938, hein, et Pemex est la première compagnie pétrolière nationale de l'histoire. 1952, Moussa Dakamiran nationalise les hydrocarbures et le premier ministre Moudak, qu'on appelait le prophète des pauvres, nationalise les hydrocarbures. 1953, il est victime d'un coup d'État, et il perd ensuite la vie. Un coup d'État organisé par la CIA sur la demande de la Grande-Bretagne. Ouais. 1960, naissance de l'OPEC. 1956, expédition de Suez, parce que Jamal Abdel Nasser avait nationalisé le canal de Suez. 1960, naissance de l'OPEC. 1971, l'Algérie, qui est un pays influent, j'y insiste, nationalise les hydrocarbures et engage un processus et déclenche au niveau des pays producteurs un processus de nationalisation en chaîne qui va complètement modifier la configuration de l'industrie pétrolière mondiale. Donc l'OPEP était la naissance de l'OPEP était une date clé, 1960. Et les pays producteurs à travers l'OPEP ont pris le contrôle de leurs ressources, hein, souveraines, leurs ressources en hydrocarbures. Et négocier des prix pétroliers qui puissent leur permettre de financer leur développement.
Alors, Monsieur Preur, s'il vous plaît, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire maintenant, et après je vous laisse encore développer pendant quelques minutes sur cette première question. Maintenant, alors pour les hydrocarbures, est-ce que sont encore une énergie viable pour le futur, hein? Et deux, lors du sommet des BRICS dernièrement en Afrique du Sud, il y a des pays de l'OPEP qui ont intégré cette organisation, ce forum qui n'est pas encore une organisation, pour dire les choses justement. Et est-ce que l'OPEP ne va pas encore gagner en influence politique et économique avec cette adhésion?
La question qui touche à la place du pétrole dans le bilan, la place des hydrocarbures, hein, dans le bilan énergétique mondial, est une question essentielle parce qu'il y a beaucoup d'intox aujourd'hui, appelant les choses par leur nom. Hein. Mm-hmm. Et il y a une espèce de, comment dirais-je, d'illusion écologiste, d'illusion verte qui perturbe les acteurs. D'accord.
Oui.
Déjà, nous avons eu des crises. La crise de 2014, la baisse des prix, nous avons eu, comment dirais-je, le Covid, etc. Et tout ça avait que les investissements dans l'exploration-production ont baissé de 1 000 milliards de dollars depuis 2014.
Ouais.
Ils avaient atteint un pic historique de 721 milliards de dollars. Donc, et il y a maintenant une contrainte d'offre,
ouais,
indiscutable. Elle se manifeste à court terme, le marché l'intègre, et c'est pour ça que le prix
augmente.
Exactement. Mais ma conviction est que les prix sont orientés sur une tendance haussière de long terme.
D'accord.
C'est une tendance qui prend en compte une anticipation d'épuisement.
D'accord.
Parce que la demande croît exponentiellement, elle est tirée à 80% par les pays émergents, et les découvertes, aujourd'hui, la planète consomme découvre un baril quand elle en consomme 6. D'accord ? Il y a une contrainte de ressources.
6 ?
Elle consomme 6 barils quand elle n'en découvre qu'un.
Waouh !
D'accord ? Mais le niveau des découvertes a atteint le niveau de 1947.
Okay. Alors maintenant, allons au fond des choses. Monsieur Preur, vous venez de dire que les prix de l'énergie augmentent depuis déjà plusieurs années, mais les dirigeants, malheureusement, de beaucoup de pays ont refusé de voir la réalité en face. Et ce n'est qu'en 2022, dans le contexte de la situation en Ukraine, c'est-à-dire après l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, et l'effet boomerang des sanctions décidées à l'encontre de la Russie, il y a eu une prise de conscience de ce dont tous les professionnels de l'énergie savaient très bien, que les énergies éoliennes et solaires prônées notamment par la Commission européenne et l'Allemagne qui ont diffusé ça en Europe et un peu partout dans le monde, comme les solutions d'avenir, étaient en fait toutes doublées pour 70% de la production par des centrales à gaz et de charbon. De charbon, je le répète, de charbon. Alors, comment analysez-vous cette situation ? Et les hydrocarbures, donc, ont-ils encore un avenir radieux devant eux, si l'on peut dire ? Parce que, en fait, les solutions nouvelles et tout, c'était en réalité le gaz russe à bon marché et dans le cadre de contrats à long terme. C'est ça qui donnait un peu de sens et d'existence à ces énergies nouvelles.
Le bilan énergétique mondial, les renouvelables ne dépassent pas les 14%. Et ils sont dans cette zone, hein. Et je ne vois pas un nouveau paradigme technologique dans le monde, hein, avant la mi-siècle réellement.
D'accord.
Avec l'avènement des réacteurs nucléaires de la génération suivante, les réacteurs à neutrons rapides, les surgénérateurs, etc. Mais aujourd'hui, et jusqu'à 2050, jusqu'à la mi-siècle, les hydrocarbures représenteront 52-50% du bilan énergétique mondial. Au mieux, on pourrait dire qu'il y aura une parité entre le pétrole et le gaz, moitié-moitié. Alors qu'aujourd'hui, le pétrole représente un petit tiers de la consommation mondiale et le gaz complète, et les deux font à peu près 58%. 50. En fait, il y a une espèce d'illusion écologique. On a idéologisé, le problème c'est qu'on a idéologisé et politisé la transition énergétique. Parce que les Verts en Allemagne, le parti écologiste, est nécessaire à Madame Merkel pour rester Premier ministre, hein, pour avoir une majorité au Parlement. Là, on n'est plus dans la prospective énergétique, on est dans les calculs politiques.
Absolument.
D'accord ?
Plutôt politicien.
Et donc, Mme Merkel annonce l'arrêt du nucléaire, etc., avec les conséquences que... Alors, vous avez évoqué la crise ukrainienne, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait même dire de cette crise que c'est une espèce d'accoucheur de l'histoire. D'accord. L'histoire, souvent, a besoin d'accélération. Le changement peut être en germe dans l'histoire, mais il attend une espèce d'accélération pour exploser au grand jour.
Oui.
Et le fait qu'on a amputé le marché pétrolier de 4,5 millions de barils jour russes qui étaient adressés à l'Europe, hein.
Oui.
De pétrole, a amputé l'industrie gazière européenne des 110 milliards de mètres cubes qui venaient du côté du Nord Stream, et en fait de près de 40% de ses approvisionnements gaziers, a provoqué un choc, d'accord, qui a révélé les vulnérabilités énergétiques qu'on avait dissimulé, parce qu'il y avait la source russe qui permettait d'ajuster les équilibres énergétiques, particulièrement en Europe.
Absolument.
Mais vous avez raison de dire que qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai dit, il y a d'intox. C'est une industrie où il y a beaucoup d'intox, l'industrie pétrolière et gazière. Mm-hmm. Mais croire que des champs d'éoliennes peuvent remplacer le gaz, c'est complètement aberrant. Mm-hmm. Parce que le gaz est une énergie pilotable. L'éolien ne l'est pas, le solaire ne l'est pas.
Je rappelle que les éoliennes et les panneaux solaires utilisés en Europe, en particulier en Allemagne, étaient doublés pour 70% de la production électrique par les centrales à gaz et de charbon. Donc, en réalité, ces solutions-là étaient le gaz russe. C'était le gaz russe bon marché dans le cadre de contrats à long terme. Bien. Alors, la question suivante. En Allemagne, Monsieur Preur, on fait fonctionner actuellement à plein régime l'industrie en se passant intégralement du gaz russe par le redémarrage des centrales à charbon, des centrales même à charbon, et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels ou domestiques, c'est-à-dire par les sources d'énergie les plus polluantes. Alors, comment réagissez-vous donc, pouvez réagir à cette situation au moment où personne, y compris les plus verts des verts dans le gouvernement allemand ou dans le monde politique, ne remet en question la remise en route en Allemagne de centrales à charbon et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels ou domestiques.
En fait, l'Allemagne est dans une situation critique. Et elle est, je pense que c'est une bombe à retardement pour l'ensemble européen. L'Allemagne est dans une situation critique avec carrément l'Allemagne connaît une récession, un déficit de sa balance commerciale, ses industries ne sont plus rentables parce que l'énergie coûte trop cher, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de... On a sous-estimé la vulnérabilité de l'Europe lorsque les pays européens se sont engagés dans la crise ukrainienne, d'accord. Oui. Donc lorsqu'ils ils ont sous-estimé leur vulnérabilité et sous-estimé la résilience de l'économie russe. Oui. Et l'équation est là, d'accord. Donc en fait, l'économie russe se révèle résiliente. Et l'Union européenne, l'Europe communautaire se révèle d'une vulnérabilité insupportable. Aujourd'hui, elle en est réduite à importer du gaz liquéfié américain qui est facturé 4 fois son prix. Elle est réduite à utiliser le charbon. Et c'est une situation critique qui ne peut pas durer. C'est ça le problème. Ouais. Et à l'arrivée, le prix de l'énergie est prohibitif. Si vous voulez, l'Allemagne avait été un peu sur un nuage, puisque pendant 40 ans, il lui était interdit d'avoir des dépenses militaires. Et elle était sous la protection des États-Unis, de l'OTAN, hein, mm-hmm. Les États-Unis précisément. Et d'un autre côté, elle avait construit un partenariat extrêmement intelligent et porteur avec la Russie à travers notamment l'énergie et aussi le partenariat technologique. Il y a une complémentarité. Mmh. Et en fait, l'Allemagne est sortie, elle est sortie des clous là. Et c'est compliqué maintenant pour elle de trouver un équilibre. Parce que, si vous me permettez...
Allez-y, docteur.
Je voudrais faire une minute un tout petit détour sur l'analyse géopolitique, sur la théorie géopolitique.
Bien sûr.
En fait, on revient à aux réflexions du penseur Mackinder.
Oui. Hein,
et Mackinder qui disait, si vous voulez, l'Europe centrale, c'est un peu le cœur de la Terre, c'est le Earthland, hein, et qui disait qui contrôle le Earthland contrôle l'île monde, et qui contrôle l'île monde contrôle le monde.
Oui.
Et le Zbigniew Brzezinski, le stratège américain, s'était beaucoup inspiré de Mackinder, notamment dans son livre Le Grand Échiquier. Hein. Et pour résumer, la grande inquiétude, c'était une alliance entre une Europe continentale qui ferait contrepoids et concurrence aux puissances palasocratiques américaines et britanniques, donc anglo-saxonnes. D'accord.
Oui.
Empêcher un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, une Eurasie puissante, était un axe stratégique essentiel. D'accord. Et donc, une Eurasie puissante aurait constitué la puissance de demain. Et toute la question était d'empêcher ce rapprochement. Et l'Allemagne, les stratèges allemands, qui sont de grande qualité, l'ont compris. Et ce qui explique le Nord Stream 1 et tout, et tout le partenariat technologique avec la Russie. Et en fait, l'Ukraine était un peu l'instrument qu'on a utilisé pour empêcher la formation de ce bloc eurasiatique. Donc depuis 2014, et ensuite la prétention à élargir l'OTAN vers l'Est, à travers donc en 2022, et c'est ainsi que l'Europe s'est retrouvée entraînée dans une logique guerrière qui ne la concerne pas.
D'accord.
Et qui la défère.
D'accord.
D'accord, j'ai terminé avec ce point-là. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est que l'absence de la source russe est un problème qui est insoluble.
Absolument.
Pour l'Europe.
Et j'aimerais embrayer sur ce que vous venez de dire, monsieur Dr. Preur. Donc, en passant à la dernière question, en fait, vous l'avez déjà effleuré tout à l'heure, le nucléaire est l'énergie propre par excellence, normalement, non émettrice de CO2, qui peut sérieusement se substituer aux énergies fossiles. Or, nous voyons dans beaucoup de pays, notamment européens, le nucléaire est justement la première cible abattue par les mouvements politiques écologistes. Et pourtant, c'est une énergie propre. Prenons l'exemple de la France. À titre d'exemple, le gouvernement Jospin, intégré par les Verts en 1997, a fermé le réacteur révolutionnaire Superphénix, un neutron rapide qui recycle les déchets nucléaires, crée son propre combustible et permet ainsi de fermer complètement le cycle du combustible et avant que le projet Astrid de même nature ne soit abandonné ou soit dernièrement envoyé aux oubliettes par Emmanuel Macron. Alors, comment peut-on expliquer cela ? Et alors que le contexte de la crise énergétique en Europe provoquée par la destruction des Nord Stream 1 et 2, comme vous venez de le souligner à juste titre, et les sanctions occidentales, même les centrales à charbon sont en train d'être rouvertes. Pourquoi le sabotage du nucléaire ?
Je vais vous dire une chose. En tant qu'expert dans les questions énergétiques, je suis excessivement inquiet parce que le système énergétique mondial, européen particulièrement, s'est engagé dans une impasse. Je ne vois pas comment il peut en sortir. Parce que l'énergie est un secteur qui consomme du temps. Il est capitalistique, il est intensif en capital, mais aussi et surtout, il consomme du temps.
Bien sûr. C'est-à-dire
que quand on parle du nucléaire, on est tout de suite dans des échéances de 10 ans minimum.
Absolument.
D'accord. En étant vraiment dans les hypothèses les plus optimistes. Or, on a diabolisé le nucléaire suite à Fukushima, et donc on a diabolisé. Et on a l'Allemagne en 2022 fermé sa dernière centrale nucléaire. Et à l'arrivée, on pensait que le solaire, les énergies vertes allaient être la solution. Maintenant, ce qui est remarquable, pour ne pas dire croustillant, c'est que on n'entend plus parler les écologistes.
Absolument.
Ils sont étrangement silencieux.
Ouais, ouais, ouais.
Ils sont... Alors, où sont les écologistes allemands alors que l'Allemagne développe à fond, remet en fonctionnement ses centrales à charbon? Où sont-ils?
Oui, bien sûr.
On ne sait pas où ils sont, là. Ils ont complètement disparu de la circulation. Le problème, c'est que la France, qui avait une expérience dans le nucléaire, une expertise réelle dans les réacteurs à eau pressurisée, a perdu cette expertise.
Absolument.
Même ses ingénieurs, ils sont partis parce que plus personne ne voulait d'eux. Et puis, on les avait diabolisés et ils sont allés aux États-Unis. Et Alstom, les réacteurs nucléaires, ils sont allés, ils ont été rachetés par General Electric. Ils ont laissé partir un segment stratégique. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et donc, les Français sont démunis. Maintenant, on entend le président Macron parler de réacteurs, de petits réacteurs SMR, de relance des EPR. Les deux EPR français, réacteurs de nouvelle génération à eau pressurisée, ne fonctionnent pas.
À ce jour, l'un, ça fait plus de 10 ans.
L'un en Finlande et l'un à Flamanville en France. Les Chinois ont réussi à faire marcher leur EPR.
Oui.
On comprend plus. Pourquoi? Parce que la France a perdu son expertise.
Absolument.
Et donc, il y a une inertie dans les systèmes énergétiques. Je dis 10 ans, je pourrais même dire 20 ans. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, la source russe était une variable d'ajustement. Et ça, on ne l'a pas compris. Et quand on dit la source russe était une variable d'ajustement, étant donné que la Russie est un pays qui a une vision de long terme, donc le partenariat stratégique avec la Russie était une variable d'ajustement.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Mourad Preur, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Mourad Preur, ex-cadre dirigeant du principal groupe énergétique et industriel algérien Sonatrach, expert enseignant de stratégie, prospective et géopolitique de l'énergie, membre de plusieurs clubs internationaux de prospective énergétique et dirige actuellement un cabinet de conseil en stratégie et études énergétiques Emergie en Algérie. Docteur Preur, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Revenons maintenant, allons au fond du problème. Pourquoi les énergies fossiles ont toute leur place et qu'est-ce qui se passe dans les énergies renouvelables? Pourquoi elles ne sont pas très fiables? Donc, il faut poser la question de l'énergie électrique. Alors, docteur Preur, l'énergie électrique est une énergie qui doit équilibrer à tout moment l'offre et la demande. C'est-à-dire que toute énergie produite doit être consommée immédiatement, ce qui veut dire qu'elle doit être pilotable à tout moment. Une des conséquences est que la fourniture d'énergie intermittente, justement donc aléatoire, est un handicap fondamental, structurel, ce qui est visiblement ignoré, malheureusement, ou on ne sait pas pourquoi, ou peut-être pour des raisons idéologiques, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en particulier par les dirigeants politiques. Mais la raison fondamentale aussi tient au fait que l'électricité, comme même un élève de lycée peut le savoir, même de collège, que consiste à un mouvement d'électrons. Et je rappelle qu'à ce jour, on ne sait pas stocker un mouvement. On ne sait que l'utiliser. On peut également le transformer dans un autre état, puis demander une restitution d'électrons. Mais le rendement de ce qui est appelé improprement, parce que c'est ce que disent les verts, qu'on peut stocker des électrons, mais le rendement est très faible compte tenu des besoins. Alors, ma question, comment peut-on expliquer la dextérité avec laquelle les idées vertes promues ont trompé l'opinion publique et les élites politiques. Alors que si l'on posait la question d'un point de vue purement scientifique, physique et mathématique, le problème, normalement, la question n'aurait même pas, ne mérite même pas d'être posée dans le système énergétique.
Alors, la réponse, elle est en un chiffre, d'abord, pas plus.
D'accord.
Aujourd'hui, 60% de l'électricité mondiale est d'origine fossile, à dominante charbon. Si je pouvais vous projeter mon graphique, vous allez voir. Le charbon, c'est plus de 50% de la consommation. C'est plus de donc le reste c'est du gaz et du pétrole.
D'accord.
Donc 60% c'est des énergies fossiles qui produisent l'électricité, d'accord?
D'accord.
Maintenant, la consommation d'énergie primaire dans le monde, l'Asie-Pacifique représente à peu près 49%, à peu près 50%, on va dire. D'accord?
Mm-hmm.
Et les républiques d'ancienne Union soviétique, 7%, l'Afrique, 4%, l'Europe, 15%. Donc, on ne peut pas jouer comme on veut avec les systèmes énergétiques, d'accord ? Ce n'est pas possible. L'électricité, comme vous l'avez dit, ne se stocke pas. Ou le stockage d'électricité est coûteux à travers des batteries lithium-ion ou à travers des sels fondus. Donc, on est dans des schémas... aujourd'hui, qui sont à la limite de la connaissance scientifique et technologique. D'accord. Donc, l'électricité, le gaz est une source propre, relativement propre. Le nucléaire est une source qui n'émet pas de CO2. Or, on a décidé que le nucléaire, on l'arrête et on a décidé de créer un déséquilibre dans les approvisionnements gaziers. Que voulez-vous qu'il y ait comme conséquence ? La conséquence, c'est que la production d'électricité qui augmente exponentiellement avec la quatrième révolution industrielle, un cloud, c'est une bête qui consomme beaucoup d'énergie. D'accord.
Oui, absolument.
Donc, il faut de l'électricité parce que ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, la digitalisation est énergivore. Et on n'a pas compris qu'il fallait adapter les systèmes énergétiques mondiaux et la géopolitique de l'énergie, la géopolitique mondiale de l'énergie doit être considérée en fonction de ces de la mutation de la demande énergétique, cette mutation lourde. Et là, on provoque on a une crise à travers le nucléaire qu'on a arrêté, et on rajoute une couche avec la source russe qu'on a arrêté également. Donc il y a un problème. Ce sont des logiques de court terme qui affectent. Et puis je voudrais dire quand même un mot sur la transition énergétique. D'abord parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui entourent ce concept-là. Hein. D'abord quand on passe son temps à voir à la télévision des BMW électriques avec 500 km d'autonomie, des machins, des et puis on a l'impression que ça y est, on a trouvé la solution à la mobilité. Il faut savoir aujourd'hui que 92% de l'énergie consommée par les transports, c'est du pétrole. Donc 92% de l'énergie qui est consommée par les transports, c'est du pétrole. Mais en même temps, les transports ne représentent que 62% de la consommation pétrolière.
Mmh.
C'est-à-dire que si vous baissez de 10, de 20% la consommation des transports, vous allez agir à la marge sur la consommation pétrolière, d'accord ?
Absolument.
Et dans la consommation pétrolière, hein, les véhicules légers ne représentent que 23,9%, c'est-à-dire un peu moins d'un quart. OK. Mmh. Et alors, on fait quoi ? L'aviation représente 5,8%. Les pays occidentaux se sont emmêlés les pinceaux dans les mensonges de leurs écologistes. Hein. Mmh. Et en fait, ils ont agi sur des systèmes qui sont, comme je vous ai dit, lourds, qui ont beaucoup d'inertie, les systèmes énergétiques. Vous ne pouvez pas toucher comme ça les systèmes énergétiques. Là, ils ont décidé que les automobiles, les moteurs à combustion en Europe allaient disparaître à partir de 2035. L'Union européenne, mais ils sont fous. C'est pas possible. Maintenant, les constructeurs commencent à dire qu'ils sont pas d'accord. En plus, les Européens, ils avaient une barrière à l'entrée dans l'industrie automobile par rapport à la concurrence chinoise. C'était leur maîtrise de la technologie des moteurs à combustion. En arrêtant les moteurs à combustion, ils ont ouvert le dernier salon de l'automobile de Paris, il n'y avait que des constructeurs chinois. Vous voyez des erreurs stratégiques qui sont complètes, des aberrations stratégiques.
Et ça, justement, va directement mener l'Allemagne, qui est le premier constructeur automobile,
exactement,
d'ici 5 ans à la faillite totale, s'ils ne trouvent pas d'alternative.
Pourquoi je vous ai dit, je suis inquiet pour le système énergétique mondial, je suis inquiet sur le modèle même industriel, parce qu'ils sont en train de... Ils vont dans le mur à la vitesse grand V.
Oui, oui.
Là, il va falloir qu'ils freinent des quatre fers, non seulement... Ils ont complètement perturbé leur développement industriel. Ils se sont aliénés leur principale source d'énergie, à savoir la Russie. Et comment ils vont faire? Je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. C'est pas en tant qu'expert, je ne vois pas comment. D'accord. Maintenant, quand on parle aussi de parce qu'il faut en parler, moi je suis un Africain et je me sens concerné par ces questions-là. Quand on parle de batteries lithium-ion pour les automobiles, moi je pense aux enfants au Congo qui sont employés pour produire du cobalt.
Absolument. Oui, oui.
C'est inhumain, c'est-à-dire que on est tout en temps d'avoir une BMW ou une Tesla ou je sais pas quoi électrique, mais on ne voit pas les petits enfants qui sont dans les mines de cobalt au Congo. Mmh. C'est inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cynisme, d'accord, et même pour ce qui est du lithium. Les agriculteurs en Argentine, ils se plaignent parce que l'extraction du lithium, c'est-à-dire que un kilo de lithium, c'est 1000 litres d'eau. Hein.
J'aimerais revenir maintenant au rapport du GIEC qui sont utilisés un peu partout, à regarder attentivement. Tout ce qui est rapporté donc par les médias, on constate facilement que le mot « science » est servi à toutes les sauces. Et souvent, ce qui est rétorqué à ceux qui remettent en cause les rapports du GIEC est le fait que le réchauffement climatique est une vérité palpable. On la voit, on la touche avec le sens. Et idem pour les corrélations avancées par le GIEC entre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et le rehaussement de la température à cause du travail humain. C'est quand même une supercherie, parce que la science, je peux le dire, même si je suis tenu à être neutre, mais je ne peux pas être neutre, parce que c'est une question scientifique connue. La science, ce n'est pas ce que les sciences témoignent. Sinon, pourquoi croire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre? Parce que ce qui est palpable, ce qui est visible, c'est que le Soleil se lève à l'est, fait un demi-cercle et se couche à l'ouest. Donc pourquoi là, on croit à autre chose? Alors ma question, que pensez-vous d'abord d'un point de vue épistémologique des preuves avancées par les experts du GIEC pour accréditer leurs conclusions? Peut-on parler de science quand on modélise uniquement les données mesurées sans se soucier de la dynamique physique qui les a engendrées? Et puis, selon vous, peut-on parler de science dans ce cas précis?
Alors, je vais vous répondre. D'abord, je commence par ce qui me touche. Lorsqu'on dit si jamais il y avait un lien de causalité établi entre les émissions de CO2 et le réchauffement climatique.
Oui.
Je ne comprends pas qu'on vienne casser les pieds aux Africains et leur demander de contribuer à faire baisser le réchauffement climatique. Ça serait peut-être les pays occidentaux avec la révolution industrielle, le charbon, le fer et l'acier qui sont responsables des accumulations de CO2 dans l'atmosphère. C'est pas le pays africain.
Mmh.
D'accord? C'est pas en utilisant le bois de feu qu'ils ont cassé la baraque en matière de CO2.
Oui.
Ou en déforestant, comme ils disent. Donc les Africains n'ont pas à payer le prix des accumulations de CO2 qui ont été faites depuis le 19e siècle avec la révolution industrielle, si c'était le cas.
Mmh.
Maintenant, revenons à la question elle-même. OK.
Mmh.
Alors, est-ce qu'il y a une causalité directe entre les émissions de CO2 et le réchauffement climatique, etc. Bon, moi, je ne suis pas... Je me réfère à des scientifiques. Des prix Nobel expliquent que le réchauffement de la Terre, il est cyclique. Il y a des cycles de réchauffement, glaciation... Pas plus que ça, d'accord?
Oui.
Et les séries statistiques longues ont montré que c'était tout à fait normal. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je discutais avec un de nos experts algériens qui était au GIEC, et il m'a confirmé ce que je savais déjà, à savoir que nos brillants experts du GIEC utilisent dans leur anticipation la méthode Delphi. La méthode Delphi que moi j'utilise avec mes étudiants, si vous voulez, pour ne pas les fatiguer, quoi. Ok.
Oui.
C'est une méthode de consultation d'experts, divergence, convergence, d'accord.
Oui.
Comment, avec quand même, elle est élémentaire, la méthode Delphi. Ok.
Bien sûr.
On peut pas avec la méthode Delphi dire affirmer comme ça que qu'il y a un réchauffement, etc. Il y a forcément une convergence entre les experts qui on provoque la convergence. Donc quoi qu'il en soit, méthode Delphi ou pas, il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de causalité.
Docteur Preur,
oui,
moi j'ai lu pas mal de rapports du GIEC. D'abord, il faut bien rappeler qu'il n'y a pas un seul rapport du GIEC, mais le dernier est une synthèse de beaucoup de rapports du GIEC. En réalité, ce qu'il présente, moi, en tant que ingénieur aussi, avant que je devienne journaliste, ce qu'il présente, c'est juste de corrélation. Une corrélation, soi-disant...
C'est une corrélation.
Voilà, une corrélation entre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température. Mais, excusez-moi, moi j'aimerais bien savoir, quand est-ce qu'une corrélation est devenue une preuve de découverte scientifique, est une preuve scientifique? Jamais. Oui, il y a une corrélation, ok. Mais pour dire qu'on a la preuve scientifique que c'est l'activité humaine qui a fait augmenter la température sur le globe, il faut une relation, comme vous l'avez souligné, de cause à effet, bien établie, vérifiée et vérifiable et revérifiable plusieurs fois. Et de ce point de vue, justement, j'aimerais bien rappeler qu'un réseau mondial de plus, et vous en avez parlé, mondial de plus de 1500 scientifiques et professionnels du climat, dont plusieurs lauréats du prix Nobel de la physique, ont publié en février 2023 un manifeste affirmant qu'il n'y avait pas d'urgence climatique. Selon donc ce document, qui est consultable sur Internet, la science du climat devrait être moins politique, tandis que les politiques climatiques devraient être plus scientifiques. Je crois que c'est une phrase qui résume tout. Et ces scientifiques, les scientifiques devraient aborder ouvertement les incertitudes et les exagérations dans leurs prévisions du réchauffement climatique, tandis que les politiciens devraient compter sans passion les coûts réels ainsi que les avantages prétendus de leurs mesures politiques. Et c'est ce que le docteur Preur a expliqué depuis tout à l'heure. Et par ailleurs, il y a un autre rapport, c'est la Fondation Clintel, qui l'a publié dernièrement, intitulé « The Frozen Climate Views of the IPCC », c'est-à-dire le groupe-là du GIEC, qui est de l'avis de physiciens du climat aussi, et la première analyse critique internationale sérieuse de ce sixième rapport d'évaluation, donc le dernier du GIEC. Alors, ce rapport, selon eux aussi, montre que le GIEC a réécrit l'histoire du climat, mis l'accent sur le scénario d'émissions les plus probables, pris le parti de surexposer les mauvaises nouvelles et de rester silencieux sur les bonnes nouvelles.
Exactement. Non, mais même, je rajouterai une chose, monsieur.
Oui.
C'est que pour ce qui fait rire, parce que la des corrélations, j'étais au courant. Mais comment, dans des climatologues, hein, alors que les théories du chaos ont été inventées par Lorentz, un climatologue précisément. Mm-hmm. Et donc, comment peuvent-ils se baser sur des corrélations? D'accord. Mm-hmm. Alors que un climatologue a montré que une impulsion initiale minime peut provoquer des effets incommensurables. Mm-hmm. Donc, ça n'a pas de sens. On ne peut pas mettre une corrélation de variables, même pendant 1000 ans, et dire ça va se passer comme ça. Il se peut qu'il y ait un changement dans les conditions initiales aujourd'hui pour que le système ait une autre configuration imprédictible. D'accord ?
D'accord.
Donc, pour être pédagogue, il faut dire à nos... aux auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter, que premièrement, le discours scientifique est souvent utilisé pour argumenter, pour soutenir, légitimer les positions politiques.
Absolument. D'accord. Une sorte d'inceste.
En fait, les auteurs de ce discours, on les prend, comme on dit, la main dans le sac. Mmh. OK. Mmh. Parce que la transition énergétique, c'est aussi rien d'autre qu'une nouvelle géopolitique de l'énergie qui était imaginée. Mmh. Sortir de la dépendance des pays producteurs avec une énergie qui serait produite dans les pays consommateurs, parce qu'il y a un éloignement entre les réserves, les zones de production. Il y a une tendance lourde, hein, mondiale, entre et la consommation. Hein. Faut pas que les gaz de schiste américains vous abusent, parce que d'accord. Donc le fait de dire on va être autonome des pays producteurs, hein, ça agit sur le pouvoir de négociation des pays producteurs. C'est-à-dire ils se disent, demain, plus personne ne viendra acheter notre pétrole. Mm-hmm. Donc, il vaut mieux qu'on soit docile et qu'on ne soit pas trop exigeant vis-à-vis des pays acheteurs de pétrole. Voilà.
Alors, une dernière question, docteur Preur, et j'aimerais bien que vous nous donniez votre appréciation d'expert énergéticien. Alors, la question, c'est qu'en est-il en termes calorique de la place du solaire photovoltaïque, du solaire thermique et de l'éolien dans la production énergétique nécessaire au maintien de l'industrie et de la consommation domestique. Et ces solutions proposées dans le cadre donc de la transition énergétique sont-elles viables à même de remplacer les énergies fossiles? Donc, je m'explique. Les idéologues de l'énergie verte disent que, voilà, par exemple, vous avez tant de calories pour faire fonctionner votre économie, nous allons vous en donner là le même taux de calories en utilisant soit le solaire, soit l'éolien. Mais c'est qu'ils ne disent pas aussi, parce que soit par omission, soit par incompétence scientifique, c'est qu'une calorie, par exemple, du nucléaire n'est pas équivalente à une calorie d'hydrocarbures, comme celle d'hydrogène n'est pas équivalente à une calorie de solaire. Et la preuve en est, par exemple, on fait décoller, par exemple, un avion avec 10 000 calories, par exemple, ou 100 000 calories. Les avions utilisent le kérosène. Est-ce qu'on peut faire décoller un avion en utilisant du charbon tout en obtenant les 100 000 calories? N'importe quel ingénieur de l'aviation vous dira que vous serez appelé à faire une conception d'un appareil dont le réservoir dépasse énormément les dimensions de l'appareil lui-même, ce qui veut dire que l'avion ne décollera jamais. Donc, pour n'importe quel système énergétique, il y a une limite du travail qui peut être accompli. Est-ce que dans ce cas-là, le solaire et l'éolien est viable?
C'est une question importante parce que on dit n'importe qui se lance dans les débats sur les stratégies énergétiques. En fait, les énergies ne sont pas standards. On peut pas remplacer une énergie par une autre comme cela. Ok.
Absolument.
Donc, on peut pas faire voler un avion. Moi, je ne montrais pas. Je les entends dire des avions qui vont. On va remplacer le kérosène par de l'hydrogène. Moi, je ne monterai pas dans un avion qui roule à l'hydrogène. Hein. C'est pas possible.
Et pourquoi? Pourquoi, docteur?
Parce qu'il est explosif à la puissance 1000, l'hydrogène. Mettre de l'hydrogène dans un avion, c'est de la folie. Ok.
Ouais.
D'ici là, d'ici que l'on mette du charbon dans l'avion. Hein. Donc, les énergies ne sont pas irremplaçables. Et il y a une simplification du discours autour de l'énergie.
Mm-hmm.
Okay. Bien sûr, nous militons pour la transition énergétique, mais en étant réaliste. Et en pensant à nos frères africains, je maintiens, je suis un Algérien, je suis un Africain, d'accord. Le premier des Algériens, Jules Hurta, disait « Afrique aux Africains », d'accord.
Oui.
Donc, je suis un Africain. Et l'Afrique doit trouver son équilibre énergétique par une intelligente... un intelligent mariage entre l'énergie solaire, éolienne et les énergies fossiles.
Et nucléaire aussi.
Il faut qu'il y ait une intégration énergétique des pays africains.
Mm-hmm.
Parce que l'énergie, elle est fondamentale, elle a un effet de levier sur la compétitivité des entreprises et la création de richesses et la création d'emplois et la prospérité des peuples, d'accord. Les Européens sont en train de nous emmener, les Occidentaux en général, dans les préoccupations qui ne sont pas les nôtres, et même qui ne sont pas dans leurs intérêts à eux, aux Occidentaux, d'accord. On le voit quand ils se sont cassés la figure avec l'éolien, des éoliennes qui se retrouvent à l'arrêt parce que il n'y a pas de vent, tout simplement. Les Européens en souffrent.
Moi, j'imagine un petit scénario, monsieur Preur. J'imagine, par exemple, pour les Algériens, par exemple, qui sont très fans du football, j'imagine, par exemple, l'équipe nationale algérienne arrive à la finale de la Coupe du Monde, et puis, hop, on leur dit, eh ben, vous pouvez pas voir le match parce qu'il n'y a pas assez de vent.
Exactement. Ça, c'est vraiment marrant.
Je crois que les hommes politiques finiront tous pendus.
Et bien, on attend qu'il y ait du vent pour que vous puissiez voir le match. Ça n'a pas de sens.
Ouais.
Parce que la société aujourd'hui et l'économie ont besoin d'une énergie pilotable.
Absolument.
D'accord. Maintenant, l'Afrique dispose, permettez-moi d'insister, puisque nous avons des auditeurs africains qu'il me tient à cœur il me tient à cœur de communiquer avec eux. L'Afrique a besoin d'énergie. Elle a du soleil, c'est de l'énergie indiscutablement. Mais il y a des pays africains qui ont des ressources en hydrocarbures, et de plus en plus.
Oui.
D'accord. Le Mozambique, la Tanzanie, le Tchad, la Mauritanie, le Niger, et de plus en plus de pays africains ont des ressources en hydrocarbures. Et il s'agit d'imaginer un système africain où les pays qui n'ont pas d'hydrocarbures mais qui ont d'autres ressources peuvent compenser. Il faut qu'il y ait un marché africain de l'énergie. C'est fondamental.
Mmh.
C'est fondamental. C'est-à-dire que quand on passe le gazoduc qui doit partir du Nigeria pour rejoindre l'Algérie et ensuite approvisionner l'Europe, va passer par le Niger. D'accord.
Oui.
Mais on peut imaginer aussi des raccordements de ce gazoduc ou des centrales électriques au Niger, par exemple, et qui approvisionneraient le Burkina Faso ou le Mali ou d'accord.
Oui.
Donc il y a de nouvelles logiques. Il ne faut pas qu'on se laisse imposer des logiques qui ne sont pas les nôtres.
Ouais.
Je sais que au Mali, il y a un entrepreneur qui a découvert un gisement d'hydrogène. Ça, c'est très rare, mais ça existe. Mmh. Ok.
Mmh.
Et il l'exploite. Regardez le génie africain, ce que c'est.
Ouais.
Un gisement d'hydrogène.
Mmh.
Et donc mettre en place des systèmes énergétiques africains, c'est-à-dire que l'Algérie peut approvisionner, le Nigeria peut approvisionner, etc. Et à l'arrivée, on a une compétitivité des entreprises africaines.
Docteur Preur, quand vous dites un système énergétique africain intégré, vous voulez dire un système connecté? De telle façon à ce que...
Connecté, bien sûr.
Que tous les pays soient
interconnexion. Ah oui, j'ai pas employé le terme, je suis désolé, mais une interconnexion, bien sûr. Merci de me corriger, oui. Très juste, très très juste.
Mm-hmm.
Il faut qu'il y ait une interconnexion, il faut développer, exactement, merci de...
Je vous en prie.
Il faut développer les interconnexions électriques, gazières africaines. C'est fondamental.
Mmh.
D'accord.
D'accord.
Il faut développer les interconnexions. Ce n'est pas normal que des pays africains soient sous-approvisionnés en énergie, alors que d'autres pays africains sont dotés en énergie. Et l'énergie, c'est la veine jugulaire de l'économie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'économie. D'accord.
D'accord. Ben, je vous remercie, docteur Preur. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Encore une fois, docteur Mourad Preur, merci pour cet entretien passionnant.
Mes salutations fraternelles à tous nos auditeurs africains qui m'ont fait l'honneur de m'écouter. Merci. Et Inch'Allah, l'Afrique se posera dans le monde.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était le docteur Mourad Preur, ex-dirigeant du principal groupe énergétique et industriel algérien Sonatrach, expert enseignant de stratégie prospective et géopolitique de l'énergie, membre de plusieurs clubs internationaux de prospective énergétique et dirige actuellement un cabinet de conseil en stratégie et études énergétiques Émergie en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.